Alors, on va continuer notre étude qu'on a commencée sur l'œuvre de la Providence pour les saints. La semaine dernière, on avait fait la première partie. Et cette semaine, on va continuer pour terminer. On était rendu au point numéro 2. L'œuvre de la Providence concertée. On va regarder que l'œuvre de la Providence pour les saints se fait aussi par supervision divine. Une supervision, ça veut dire que Dieu voit les justes, il les voit en tout temps et il agit de façon constante dans leur vie. On voit par exemple dans Job, au chapitre 36, au verset 7, « Il ne détourne pas ses yeux des justes et il les fait asseoir sur le trône avec les rois, à jamais, et ils sont élevés. » Alors la parole nous dit que Dieu ne détourne jamais ses yeux de ses élus. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, « Car les yeux de l'Éternel parcourt toute la terre pour tenir ferme en faveur de ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi follement en cela, car dès maintenant tu auras des guerres. » Alors, le Seigneur nous dit qu'il nous regarde en tout temps, les justes de toute la terre, et il a les yeux constamment sur nous. Alors, ça fait partie de l'œuvre de la Providence pour les saints. Mais parfois, le Seigneur, non seulement il supervise, il regarde tout ce qui se passe, mais des fois, il intervient, il agit dans la vie des saints. On a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On va regarder, par exemple, l'intervention de Dieu quand Daniel a été sauvé de la fosse aux lions. Alors, je ne sais pas si vous avez tous lu ce passage-là, probablement, dans Daniel 6, versets 16 à 24. Alors le roi commanda qu'on appela Daniel et qu'on le jeta dans la fosse des lions. Et le roi, prenant la parole, dit à Daniel, « Ton Dieu, lequel tu sers incessamment, sera celui qui te délivrera. » Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses gentilshommes, afin que rien ne fût changé touchant Daniel. Après quoi, le roi s'en alla dans son palais et passa la nuit sans souper. Et on ne lui fit point venir les instruments de musique, et il ne put même point dormir. Puis le roi se leva de grand matin, lorsque le jour commençait à luire, il s'en alla en diligence vers la fosse des lions. Et comme il s'approchait de la fosse, il cria d'une voix triste, « Daniel !» Et le roi, prenant la parole, dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, lequel tu sers incessamment, aurait-il bien pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel dit au roi, « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions tellement qu'ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et même à ton égard, ô roi, je n'ai commis aucune faute. Alors le roi eut en lui-même une grande joie, et il commanda qu'on tirât Daniel hors de la fosse. Ainsi, Daniel fut tiré hors de la fosse, et on ne trouva en lui aucune blessure, parce qu'il avait cru en son Dieu. Et par le commandement du roi, ces hommes qui avaient accusé Daniel furent amenés et jetés, eux, leurs enfants et leurs femmes, dans la fosse des lions, Et avant qu'ils fussent parvenus au bas de la fosse, les lions se saisirent d'eux et leur brisèrent tous les os. Alors on voit un exemple quand on dit que Dieu, la providence de Dieu pour ses saints, où Dieu intervient de façon directe dans la vie d'une personne pour lui sauver la vie. On a l'exemple aussi de Paul lorsqu'il s'était fait saisir par les Juifs quand il avait été à Jérusalem, et que par la providence de Dieu, le Seigneur avait permis que quelqu'un était conscient de qu'il y avait eu un complot, il avait été averti, et à cause de cela, Dieu intervient dans la vie de Paul pour lui sauver la vie à un moment précis de sa vie. Alors on a ça dans Acte 23, versets 16 à 23. « Mais le fils de la sœur de Paul, ayant appris cette conjuration, vint et entra dans la forteresse et la rapporta à Paul. Et Paul, ayant appelé un des centeniers, lui dit, « Mène ce jeune homme au tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Il le prit donc et le mena au tribun. Et il lui dit, « Paul, qui est prisonnier, m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Et le tribun, le prenant par la main, se retira à part et lui demanda, « Qu'est-ce que tu as à me rapporter? » Et il lui dit, « Les Juifs ont conspiré de te prier que demain tu envoies Paul au conseil comme s'il voulait s'enquérir de lui le plus exactement de quelque chose. Mais n'y consent point, car plus de 40 hommes d'entre eux sont en embûche contre lui et qui ont fait un vœu avec exécration de serment de ne manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Ils sont maintenant tous prêts, attendant ce que tu leur permettras. » Le tribun, donc, renvoya le jeune homme et en lui commandant de ne dire à personne qu'il lui eût déclaré ces choses. Puis, ayant appelé 200 centeniers, il leur dit, « Tenez-vous prêts à 3 heures de la nuit, 200 soldats et 70 hommes de cheval et 200 archers pour aller à Césarée. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'était pas l'heure pour Paul pour mourir, et Dieu a permis qu'un enfant soit au courant que les Juifs avaient fait une conspiration pour le tuer. Alors, on voit les exemples concrets de la façon dont Dieu... On sait que Dieu permet les choses dans la vie des saints pour des raisons sages et pour des raisons, pour un but sage aussi. Alors, on sait Romains 8, 28, c'est un verset qu'on n'arrête pas de répéter, mais je ne suis pas sûr qu'on le comprend tant que ça. Parce que si on le comprenait, on ne critiquerait jamais les événements que Dieu permet qui arrivent dans nos vies, parce qu'il nous dit que toutes les choses qui arrivent dans nos vies, sans exception, contribuent à notre bien. Alors, pourquoi on chiale si les circonstances que Dieu nous envoie, on les trouve désagréables, on chiale parce qu'on pense qu'on le connaît, Romains 28, qu'on l'a compris, puis qu'on le met en pratique dans nos vies, mais je ne suis pas si sûr que ça. Alors, ça dit Romains 8, 28, « Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est un verset à répéter et à apprendre par cœur et à méditer continuellement. Parce que si on le méditait et on le comprenait, on arrêterait de chialer. Et on chiale tout le temps, donc à quelque part, on ne l'a pas si compris que ça. Alors, il y a quelques exemples qu'on peut prendre, qui sont tirés des Écritures, qui démontrent, par exemple, que Dieu agit toujours pour une fin précise. On peut prendre l'exemple des sages-femmes dans Exode, quand Pharaon avait demandé de tuer tous les enfants mâles et que les sages-femmes d'Israélites avaient intervenu. Alors, dans Exode chapitre 1, verset 15 à 21, « Le roi d'Égypte commanda aussi aux sages-femmes hébreux, dont l'une avait nom Sifra et l'autre avait nom Pua. Il leur dit, « Quand vous recevrez les enfants des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un fils, mettez-le à mort. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ils ne firent pas ainsi que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela, d'avoir laissé vivre les fils? » Et les sages-femmes répondirent à Pharaon, « Parce que les Hébreux ne sont point comme les femmes égyptiennes, car elles sont vigoureuses, et elles ont accouché avant que la sage-femme soit arrivée chez elles. » Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très puissant. Et parce que les sages-femmes craignirent Dieu, il leur édifia des maisons. Alors ça ne veut pas dire qu'il les a bâti une maison en bois, là. Et ça veut dire qu'il leur a construit une famille, une descendance nombreuse. Dieu a béni leur descendance, autrement dit. On a l'exemple aussi dans l'Ancien Testament du conseil d'Achitophel qui avait donné le conseil pour tuer David. Alors on sait que le conseil a plutôt servi à conserver sa vie. On a l'histoire dans 2 Samuel 16, versets 19 à 23, et après ça, dans 17, 1 à 3, et le verset 14 et le verset 23. « Et de plus, qui servirai-je, ne serait-ce pas son fils? Je serai ton serviteur, comme j'ai été le serviteur de ton père. » Alors Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble pour voir ce que nous avons à faire. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père qu'il a laissées pour garder la maison, afin que quand tout Israël saura que tu les auras mis en mauvaise odeur auprès de ton père, les mains de tous ceux qui sont avec toi soient fortifiées. On dressa donc un pavillon à Absalom sur le toit de la maison, et Absalom vint vers les concubines de son père à la vue de tout Israël. Or, le conseil que donnait Achitophel en ce temps-là était autant estimé que si quelqu'un eût demandé le conseil de Dieu. C'est ainsi qu'on considérait tous les conseils d'Achitophel, les conseils qu'Achitophel donnait tant à David qu'à Absalom. Mais on va voir la suite un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Autrement dit, le conseil était bon, mais Dieu a permis que le roi considère qu'il n'était pas si bon que ça, et c'est ça qui lui a sauvé la vie. Dans 2 Samuel 17, versets 1 à 3, et ensuite le verset 14 et 23. Après cela, Achitophel dit à Absalom, je choisirai maintenant 12 000 hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit, et je me jetterai sur lui. Il est fatigué, et ses mains sont affaiblies, et je l'épouvanterai tellement que tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, et je frapperai le roi se levant. Et je ferai que tout le peuple retournera à toi, car l'homme que tu cherches vaut autant que si tous retourneraient à toi. Ainsi tout le peuple sera sain et sauf. Alors dans le verset 14 et 23, on a la conclusion. Alors Absalom et tous les hommes dirent, le conseil de Cusaï, l'Archite, est meilleur que le conseil d'Achitophel, car l'Éternel avait décrété que le conseil d'Achitophel, qui était le plus utile pour Absalom, fût dissipé afin de faire venir le mal sur Absalom. Or, Achitophel, voyant qu'on n'avait point fait ce qu'il avait conseillé, fit sceller son âne, se leva et s'en alla à sa maison dans sa ville, et après qu'il eut disposé des affaires de sa maison, il s'étrangla et mourut, il fut enseveli au sépulcre de son père. Voyez-vous, il avait donné un bon conseil. Si le roi avait suivi le conseil d'Achitophel, David, c'en était de sa vie. L'autre a présenté mais Dieu a permis que le roi perçoive que celui de Cushaï était meilleur, et c'est ce qui a fait enfin que la vie de David a été sauvée. Alors Dieu intervient continuellement comme ça dans la vie des siens dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau également, mais on doit donner juste une couple d'exemples. Alors, le troisième point, c'est l'œuvre de la providence qui est consignée. Quand on consigne quelque chose, on le mentionne et on le rapporte par écrit dans un but. Quand on consigne quelque chose, il y a toujours un but, c'est de le garder dans notre mémoire. Alors, c'est ce que Dieu veut, que nous nous souvenions de ses hauts faits et de toutes ses actions en notre faveur. Ça, c'est le troisième point. Dieu veut que ce que Dieu a permis qu'il arrive dans nos vies et dans la vie des personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et de toutes les protections que Dieu a données aux siens dans l'histoire de l'Église. Si vous lisez l'histoire de l'Église, c'est passionnant de voir certains bouts où Dieu fait des choses extraordinaires pour protéger son peuple. Alors, Dieu veut qu'on regarde et qu'on se souvienne de ce qui est consigné par écrit dans les Écritures et dans l'histoire de l'Église pour qu'on se rappelle qu'il intervient régulièrement et qu'il fait des choses. Alors dans le psaume 110, verset 1, ça dit « Psaume de David pour faire souvenir, donné au maître chante, ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, ô Dieu, hâte-toi de venir à mon secours. » Alors, Dieu veut qu'on se souvienne. On regarde Esther, chapitre 9, versets 27 et 28. Les Juifs établirent et se soumirent, eux et leur postérité, et tous ceux qui se joindraient à eux, à ne manquer point de célébrer, selon ce qui avait été écrit, ces 2 jours dans leur saison chaque année. Et ils ordonnèrent que la mémoire de ces jours serait célébrée et solennisée dans chaque âge, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et qu'on n'abolirait point ces jours du Purim entre les Juifs, et que la mémoire de ces jours-là ne s'effacerait point de leur postérité. Le fameux Purim, là, c'est que quand les Juifs avaient été sauvés du complot de Haman qui voulait faire complètement disparaître le peuple juif, et Dieu a permis que ça se retourne, et à la fin, Dieu veut, dans le verset 28, ils ordonnèrent que la mémoire de ces jours. Alors Dieu veut qu'on se souvienne de la manière dont il a intervenu dans l'histoire pour les siens. Dans Exode 13, les versets 3, Moïse donc dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a retiré par main forte. On ne mangera donc point de pain levé. » Toute l'histoire du souvenir, « Souvenez-vous, souvenez-vous. » 1 Chronique 16, versets 11 à 13. « Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements qu'a prononcé sa bouche, vous, postérité d'Israël, son esclave, vous, fils de Jacob, ses élus. » Alors, s'il veut que le peuple d'Israël se souvienne continuellement de la manière dont il a intervenu dans leur vie, comme peuple et comme individu, bien sûr, ça s'adresse à nous aussi. Dieu a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Souvent, on oublie rapidement. De là, la nécessité, qu'a-t-on dit, de consigner les choses. Peut-être pas une méchante idée, un moment donné, de s'ouvrir un petit cahier, un moment donné, puis de marquer par écrit les choses que le Seigneur a fait dans vos vies, de manière à ce que régulièrement, on rouvre le cahier et on regarde ce que Dieu a fait dans notre vie et dans l'histoire de l'Église et pour les personnages des Écritures. C'est plein de choses dont le Seigneur veut qu'on se souvienne. Néhémie, chapitre 4, verset 14. « Et je regardai et je me levai, et je dis aux notables et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Souvenez-vous du Seigneur. » Psaume 105, versets 4 et 5. « Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ses merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » Ésaïe, chapitre 46, versets 8 à 10. « Souvenez-vous de cela et reprenez courage, vous, transgresseurs, et revenez à votre sens. » Souvenez-vous des premières choses qui ont été autrefois, car c'est moi qui suis le Dieu fort. Il n'y en a point d'autre Dieu, il n'y a rien qui soit semblable à moi. Qu'il déclare dès le commencement la fin, et longtemps auparavant les choses qui n'ont point été encore faites, qui dit, mon conseil tiendra, et je mettrai en exécution tout mon bon plaisir. Alors c'est consigné, mais c'est consigné pour notre usage, pour l'usage des saints. On a, par exemple, dans 1 Samuel 25, vous vous souvenez du passage de David, quand Abigail est venue le voir et qu'elle lui a fait le conseil de ne pas intervenir puis tuer Nabal. Et encore là, c'est Dieu qui intervenait pour empêcher David de faire une bêtise monumentale. Mais quand on lit ces passages-là, il ne faut pas juste lire une histoire. Il faut regarder comment ça s'applique à nos vies. Le Seigneur, il fait des choses aussi dans nos vies pour nous empêcher de faire des bêtises, la même chose. Alors, il faut voir les principes qui sont en arrière de ces histoires-là pour les appliquer à notre propre vie. Ça dit dans le verset 34, 1 Samuel 25, « Car certainement l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant, que si tu ne te fusses hâté et tu ne fusses venu au-devant de moi, il ne fut rien demeuré de reste à Nabal d'ici au matin, soit homme, soit bête. » Le Seigneur aurait permis qu'il fasse un razzia dans la famille de Nabal, et le Seigneur a permis qu'Abigail, en intervenant et en lui disant, et en lui donnant des biens, parce qu'il avait besoin de biens parce qu'il était en guerre, et qu'elle a fait ça, elle a empêché David de faire des graves erreurs. Mais ce qu'il faut retenir, quand on lit les jours que Dieu intervient en providence pour nous, c'est qu'il fait la même chose pour nous. Alors, quelque part, il faut s'en souvenir. Et Dieu permet aussi qu'il nous accorde des grâces prévenantes. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 35 à 37. Vous souvenez-vous du roi Josaphat? Le roi Josaphat, dans les Écritures, est présenté comme un bon roi d'Israël. Mais il a fait des bêtises à un moment donné. Et le Seigneur, une grâce prévenante, c'est que le Seigneur fait quelque chose pour t'empêcher de faire une bêtise majeure. Alors, dans 2 Chroniques, chapitre 30, versets 35 à 37, On lit, après cela, Josaphat, roi de Juda, se joignit à Akazia, roi d'Israël, qui ne s'employait qu'à faire du mal. Et il s'associa avec lui pour faire des navires et pour les envoyer en Tarsis. Et ils firent ces navires à Etjon-Guéber. Alors Éliézer, fils de Dodava, de Maréza, prophétisa contre Josaphat en disant, « Parce que tu t'es joint à Akazia, l'Éternel a détruit tes ouvrages, les navires donc furent brisés et ils ne purent point aller en Tarsis. » Il s'était joint avec un autre roi qui était méchant, pensant probablement dans sa tête qu'il faisait bien. Dieu, une grâce prévenante, c'est que Dieu a permis que les navires qu'il avait fait avec ce roi-là pour aller faire des choses de guerre, Dieu a permis que les navires soient détruits. C'est une grâce prévenante. Mais Josaphat, quand même, a été empêché de faire des bêtises. Parfois aussi, Dieu envoie une grâce pour éviter de l'orgueil. Par exemple, dans la vie de Paul, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, « Mais de peur que je ne m'élevasse à cause de l'excellence des révélations, il m'a été fait une écharde en la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Ça a été, dis-je, afin que je ne m'élevasse point. » Il y avait eu des révélations extraordinaires et ça a une tendance, ça a la tendance à faire enfler la tête de quelqu'un. Et le Seigneur a permis d'envoyer un ange pour le souffleter. Souffleter, ça veut dire donner des petites tapes, ça baboune, comme on dit. Alors, ça l'avait pour but de lui rappeler, je t'ai accordé des très grandes grâces, mais ne t'enfle pas la tête à cause de ça. Et le Seigneur avait permis de lui donner un moyen pour pas qu'il ne le fasse, parce qu'il l'aurait fait s'il n'y avait pas eu le moyen. Alors, c'est Dieu qui intervient dans ta vie, tout le temps, continuellement. Parfois, le Seigneur intervient aussi pour nous ouvrir les yeux sur des situations. Psaume 113, versets 12 et 13 et versets 16 et 17. Voilà, ceux-ci sont méchants et étant leur aise en ce monde, ils acquièrent de plus en plus de richesses. Quoi qu'il en soit, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Versets 16 et 17. Toutefois, j'ai tâché à connaître cela. Mais cela me fut fort difficile, jusqu'à ce que je sois entré au sanctuaire du Dieu fort et que j'ai considéré la fin de tels gens. Autrement dit, le psaume 113 est en train de nous dire que David pouvait jalouser que des méchants n'arrêtent pas de prospérer puis que lui était pauvre. Le Seigneur lui dit, ça a été difficile à comprendre pour lui. Il dit, j'ai eu beau méditer là-dessus, j'ai eu de la misère à comprendre. Jusqu'à ce que j'ai compris où était leur destinée éternelle. Quand tu comprends que ces gens-là qui vivent sur la terre, qui ont plein de richesses, qui ont plein d'honneurs, qui ont plein de choses comme ça, parce que des fois, on peut dire comment ça se fait qu'eux autres, c'est des païens, puis qu'ils n'arrêtent pas de prospérer, puis nous, on est des chrétiens, puis on vit dans la misère. Mais quand tu t'arrêtes à penser où est-ce qu'ils s'en vont, toute ta jalousie et ton incompréhension disparaît. Et le Seigneur permet aussi de nous empêcher, parfois de nous empêcher de pécher. Dans Genèse 20, verset 6, « Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur, et aussi ai-je empêché que tu ne péchasses contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Alors le Seigneur permet parfois ce qu'on appelle des grâces prévenantes. Il permet que les choses n'arrivent pas. Et le Seigneur a consigné toutes ces choses dans ses Saintes Écritures pour un but, celui que nous méditions toutes ces choses-là. Alors, méditer, ça veut dire qu'on soumet quelque chose à une longue et à une profonde réflexion. Dieu, dans les Écritures, il ne nous conseille pas de méditer sur les providences. Il nous commande de méditer sur ses providences. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-28. Sont-ils ministres de Dieu? Je parle comme un imprudent. Je le suis plus qu'eux. En travaux, davantage. En blessures, plus qu'eux. En prison, davantage. En mort, plusieurs fois. J'ai reçu des Juifs par 5 fois 40 coups moins 1. J'ai été battu de verge 3 fois. J'ai été lapidé une fois, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé un jour et une nuit en la profonde mer, en voyage souvent, en péril des fleuves, en péril des brigands, en péril de ma nation, en péril des gentils, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril en mer et en péril parmi de faux frères, en peine et en travail, en veille souvent, en faim et en soif, en jeûne souvent, dans le froid et dans la nudité. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le soin que j'ai de toutes les églises. Alors, Dieu veut qu'on se souvienne de ces choses-là. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 et 11. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon but, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, celles qui sont arrivées à Antioche, à Iconie, à Lystre, persécutions que j'ai supportées, et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Il faut se souvenir quand le Seigneur fait des choses pour nous dans notre vie. Alors, le psaume 107, verset 23 à 31. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, faisant le commerce sur leurs grandes eaux, ils virent les ouvrages de l'Éternel et ses merveilles dans les lieux profonds. Il dit, et il fit lever un vent de tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient aux cieux, ils descendaient aux abîmes, leur âme se fondait de détresse. Ils tournoyaient et chancelaient comme un homme ivre. Toute leur sagesse avait disparu. Alors, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les tira hors de leurs angoisses. Et il arrêta la tempête, la changeant en brise légère, et les vagues se turent. Et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et il les conduisit au port qu'ils désiraient. Qu'il loue l'Éternel pour sa grâce et pour ses merveilles envers les fils des hommes. » Psaume 143, verset 5, « Il me souvient des jours anciens, je médite tous tes faits, je discours des œuvres de tes mains. » Job, chapitre 37, verset 14 à 16, on va terminer là-dessus. « Fais attention à ceci, Job, arrête-toi, considère les merveilles du Dieu fort. Sais-tu comment Dieu les arrange et comment il fait briller la lumière de sa nuée? Connais-tu le balancement des nuées et les merveilles de celui qui est en parfait, qui est parfait en science? » 3 applications. La première, c'est à la fois un plaisir et un devoir que de considérer les merveilleuses providences de notre Dieu. Elles sont universelles, efficaces, bénéfiques, encourageantes et révélatrices du caractère de Dieu. Elles s'étendent sur les élus, collectivement et individuellement. Nous pouvons les apprécier dès cette terre, mais nous n'en découvrirons toute la richesse et toute la perfection que dans l'éternité où le Seigneur nous fera admirer son infinie sagesse. 2e application, n'oublions jamais que tout ce qui arrive dans nos vies est une symphonie composée par Dieu lui-même. C'est un concert de supervision divine, par intention divine et pour une fin divine. 3e et dernier, l'Éternel veut que nous conservions le souvenir de ses providences. C'est son ordre de les consigner par écrit. Elles peuvent ainsi nous servir pour de multiples usages, de saints conseils, des grâces préventives, l'évitement de l'orgueil, l'ouverture des yeux et l'évitement du péché. Méditons-les. Que l'Éternel soit béni pour sa sagesse, son amour et sa miséricorde. Méditons sur ses providences, de grandes bénédictions en découlent. Amen.